le magazine des Nations Unies. Non à l'usage excessif de la force, c'est en tout cas la réaction de la MONUSCO face aux violences de lundi dernier à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Violences qui auraient fait 12 morts selon la police. Semaine de l'allaitement maternel, c'était du 1er au 7 août dernier. L'UNICEF sensibilise sur l'allaitement exclusif au lait maternel jusqu'à 6 mois. Une experte de cette agence nous dira le pourquoi. Enfin, ce cri d'alarme de Tcha, le bureau de coordination des affaires humanitaires, qui estime insuffisante la réponse humanitaire à la crise dans le Kasaï. Il appelle donc à la mobilisation des acteurs, mais également du gouvernement congolais, pour une assistance des populations dans le besoin.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous, merci de suivre UN Mag en République démocratique du Congo et partout ailleurs en dehors de nos frontières. L'actualité cette semaine reste dominée par les violences du lundi 7 août dernier, événements qui ont fait 12 morts à Kinshasa et dans d'autres villes du pays selon la police. Alors, la MONUSCO déplore l'usage excessif de la force lors de ces violences. De même, la mission onusienne regrette les perturbations qui ont affecté les réseaux sociaux le mardi et encore partiellement le mercredi matin. Je vous laisse suivre à cet effet Fabienne Pompée, porte-parole de la mission qui intervenait mercredi. C'était à l'issue de la conférence hebdo des Nations Unies. Et le micro de Jean-Pierre Lally, Ikoko.
Alors les points essentiels que nous avons évoqués aujourd'hui, c'est d'abord les événements de lundi. La MONUSCO déplore la violence qui s'est manifestée lundi dans la rue de Kinshasa et dans d'autres villes de l'ouest du pays. Nous avons rappelé que la libre expression doit se faire pacifiquement et éviter la violence, quel que soit le bord politique auquel on appartient ou la mouvance de pensée ou d'opinion. La seconde chose, c'était l'usage proportionné de la réponse dans le maintien de l'ordre. Donc il est important que cette réponse soit proportionnée. Il est important aussi qu'on évite l'utilisation des armes létales qui coûtent en vie humaine à chaque fois très cher. Oui, nous avons constaté effectivement cette restriction d'usage des médias sociaux. C'est une restriction de la liberté d'expression et de communication et c'est jamais un très bon signe quand on empêche comme ça l'information de circuler librement, d'autant qu'avec les moyens aujourd'hui, l'information continue à circuler.
La deuxième actualité de la semaine, c'est en tout cas ce cri d'alarme du Bureau de coordination des affaires humanitaires. Ocha constate que la réponse humanitaire au Kasaï reste insuffisante. Les donateurs traînent les pieds alors que la situation humanitaire demeure extrêmement préoccupante. Ocha le fait savoir dans un communiqué publié le 9 août dernier. Et Jean-Pierre Lally Coco nous en fait le condensé.
Dans ces documents, Ocha estime urgent les décaissements effectifs des fonds annoncés pour assister au plus vite les populations kasaïennes. Ocha constate aussi que près de 4 mois après l'appel éclair des 64,5 millions de dollars américain, la réponse humanitaire n'est que de 11%, alors que la crise humanitaire demeure extrêmement préoccupante dans les camps Kasaï, où 1,4 million de personnes déplacées ont fui les violences dans des conditions de déplacement très précaires. Du coup, le besoin en assistance d'urgence et en protection devient immense. C'est pourquoi, outre le besoin financier, Ocha pose la question sécuritaire. Il constate que les agences humanitaires du système des Nations Unies et les ONG travaillent dans un contexte tendu. Elle demande donc au gouvernement de jouer pleinement son rôle des garants de sécurité. Ocha conclut que dans les semaines à venir, deux facteurs détermineront l'évolution de la situation humanitaire dans le Kasaï. Il s'agit d'abord de la capacité des acteurs à augmenter l'assistance aux populations et ensuite de celle du gouvernement congolais à rétablir la paix dans cette région.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous le disions, la semaine de l'allaitement maternel, c'était en tout cas du 1er au 7 août dernier, une occasion pour la communauté internationale de sensibiliser les mères allaitantes, mais aussi la communauté dans son ensemble sur les bienfaits de cette pratique. Docteur Annie Mitelezi Kanene, chargée de nutrition à l'UNICEF RDC, elle évoque tout l'intérêt qu'il y a pour les femmes d'allaiter exclusivement jusqu'à 6 mois. Elle répond aux questions de Jean-Pierre Lally Coco.
Docteur Annie Mitelezi Kanene, bonjour.
Bonjour.
L'allaitement maternel, c'est une pratique vieille comme le monde. Pourquoi vous, l'UNICEF, vous insistez ces derniers temps sur l'allaitement maternel exclusif?
Ce n'est pas que ces derniers temps nous insistons sur l'allaitement maternel exclusif, mais déjà comme le thème de la Semaine mondiale de l'allaitement le dit, ensemble protégeons l'allaitement. Et donc pour montrer que l'allaitement n'est pas seulement l'affaire de la maman seule, et donc il y a le père, les membres de la famille, les communautés, les autorités politico-administratives et donc les médias, tout le monde, nous devons soutenir la femme à allaiter. Raison pour laquelle nous mettons un accent. C'est vrai que l'allaitement maternel s'est fait du 1er janvier au 31 décembre, mais lorsqu'on prend la semaine ou le mois d'août comme mois de l'allaitement, c'est pour vraiment nous rappeler et essayer un peu de booster cet allaitement maternel.
Donc il faut sensibiliser.
Exactement, il faut sensibiliser et conscientiser tout le monde.
Docteur, quel est l'état des lieux de l'allaitement maternel en RDC aujourd'hui?
Bon, comme le mix 2014 l'a dit, en RDC, 52% d'enfants seulement sont mis au sein d'alerte qui suit l'accouchement. 48% d'enfants de 0 jusqu'à 6 mois sont allaités exclusivement au sein et seulement 66% qui continuent l'allaitement maternel jusqu'à l'âge de 2 ans.
Que faire alors pour améliorer, docteur, davantage la situation? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ok, donc nous tous, nous devons essayer de soutenir les femmes qui allaitent. Et maintenant, comment les soutenir, ces femmes qui allaitent? Et donc, il y a des plateformes telles que les structures de santé ou la consultation préscolaire. C'est fait, c'est là où on suit la croissance de l'enfant et donc on profite de ces plateformes pour conseiller aux mères ou aux gardiens d'enfants, ceux qui amènent les enfants durant ces consultations, les conseiller comment la maman doit être ou l'enfant doit être nourri. Il y a également les conseils durant les consultations prénatales et consultations préscolaires et lorsque l'enfant même est malade en consultation curative, on conseille également, mais ça c'est au niveau des structures de santé, mais au niveau communautaire également, il existe des groupes de soutien à l'enfant où les autres femmes qui savent bien allaiter, qui peuvent aussi accompagner ceux qui n'allaitent pas à allaiter. Et donc également au niveau macro, ce que je peux dire, donc les médias, donc au niveau un peu élevé, qu'on peut sensibiliser tout le monde.
C'est ce que nous faisons actuellement.
Exactement, c'est ça que nous sommes en train de faire.
Docteur, on ne peut pas parler de l'allaitement maternel sans penser à la femme, surtout à sa santé. Est-ce qu'une femme qui est séropositive peut allaiter son enfant?
Exactement. Une femme séropositive peut allaiter son enfant. Donc, en RDC, il y a deux options qu'on donne à la femme. Et donc, déjà, la femme doit aller à la consultation prénatale pour connaître son état sérologique. Et donc, lorsqu'il connaît déjà son état sérologique, il sera mis sous ARV. Et donc, lorsqu'il va mettre au monde, on va lui donner les deux options pour dire la première option, elle ne donnera que le lait maternel jusqu'à l'âge de 6 mois à son enfant et elle doit continuer jusqu'à une année puis elle va arrêter.
Est-ce qu'il n'y a pas de risque de contamination du virus à l'enfant?
Il n'y a pas vraiment assez de risque de contamination parce que dans la deuxième option, on demande à la maman si elle a des moyens ou la famille si elle a des moyens, elle ne donne pas le lait maternel. Mais par contre, elle ne peut pas faire aussi l'alimentation mixte. Elle ne donnera que les substituts du lait maternel à l'enfant. Quel est le risque de combiner et le lait maternel et autre chose? Et donc, c'est au niveau du type digestif de l'enfant. Lorsque l'enfant consomme autre chose, et donc il peut maintenant se blesser, à ce moment-là, l'enfant pourra se contaminer. Raison pour laquelle on conseille à la femme d'allaiter exclusivement et donc ça protège l'enfant.
Un autre problème, docteur, c'est l'usage du biberon. Certaines femmes utilisent le biberon. Quel est l'avantage qu'on peut avoir en allaitant sans biberon?
Le biberon en RDC n'est même pas recommandé. À tel point, nous disons même que le biberon, c'est le tueur d'enfant. C'est un tueur d'enfant et donc ce n'est pas vraiment recommandé parce que l'hygiène, si, elle n'est pas bien entretenue. Et donc, le lait, c'est un millier qui appelle le microbe. Et donc, c'est là où l'enfant va essayer de se contaminer et de faire des diarrhées et ainsi de suite. Mais le lait maternel a beaucoup des avantages pour l'enfant, pour la mère, pour la communauté et voire même pour les pays. Et donc, si on continue avec le biberon, l'enfant va développer des diarrhées et ils allons perdre nos enfants.
Donc, en d'autres termes, docteur, vous conseiller aux mères de ne pas utiliser le biberon?
En tout cas, vraiment, c'est une pratique qui doit être vraiment prohibée, qui ne doit pas être utilisée. Donc, ce n'est pas une bonne pratique. C'est vraiment contre-indiqué.
Je pense que nous avons suivi les mamans qui utilisent le biberon. Alors, l'une des recommandations vise à favoriser l'allaitement au milieu du travail. Est-ce que cela est possible, docteur?
Oui, normalement, c'est ça que nous sommes en train de vouloir vraiment essayer de faire. Si vous vous rappelez, il y a les termes, je pense, que de l'année passée où on disait l'allaitement et le travail. Le ministère de la Santé, à travers son programme national de nutrition, avait fait des démarches démarche auprès du ministère du Travail pour essayer un peu de promouvoir, voire même au niveau même des entreprises, des institutions, même dans le milieu informel, pour qu'il y ait quand même des cadres conviviaux pour les femmes qui travaillent. Et donc, les démarches sont en cours, nous ne devons pas encore s'y lasser. Donc, c'est quand même possible. Et donc, pour donner quand même cette opportunité aux femmes qui travaillent d'allaiter exclusivement leurs enfants, donc au milieu des travails, on peut placer un local, la maman peut amener son enfant, et donc, de temps en temps, elle sort pour allaiter son enfant. Et donc, et l'employeur, et la maman, tout le monde va essayer de gagner. Et donc, c'est vraiment aussi recommandé. Mais sinon, dans un premier temps, le temps qu'on y arrive, je vais recommander à la femme qui travaille de faire l'expression du lait. Elle peut faire l'expression du lait. Donc, le lait maternel peut se conserver. L'expression du lait, ça signifie elle prend le lait, elle met dans les différentes tasses. Donc, elle presse le lait, elle prend ses seins et elle presse et le lait va sortir, elle met dans les tasses, donc bien propre, bien couvert. Et le lait pressé comme ça peut se conserver à l'air libre pendant 8 heures, au frigo pendant 16 heures. Et donc, elle peut mettre dans 2-3 tasses. Et donc, la personne qui va rester avec l'enfant pendant qu'elle est absente et peut commencer à donner l'enfant avec la cuillère, pas avec le biberon.
Vous êtes médecin et vous êtes nutritionniste. Vous êtes aussi mère de famille.
Exact.
Et lorsque vous donnez des conseils comme ça, on commence par donner l'exemple soi-même. Est-ce que vous allaitez?
Pour donner le bon exemple, donc toi-même, tu dois être dedans. Et donc, moi également, j'ai des enfants. J'ai allaité exclusivement. Et d'ailleurs, parce qu'on dit même, il y a des femmes, oh non, une femme qui accouche par césarienne, elle ne peut pas. Moi, j'ai accouché par césarienne, mais j'ai allaité aussi exclusivement. Et donc, le lait maternel sort. Et donc, il est question seulement de mettre l'enfant au sein. Et lorsque l'enfant est en train de sucer, et donc, cette scission qui va faire la montée, l'été, et donc, c'est possible.
Est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux mamans, à les tantes qui nous suivent et aussi à la communauté dans son ensemble en ce qui concerne l'allaitement maternel exclusif?
Les derniers mots, je dirais, et donc on dit l'avenir de nos enfants. Bon, c'est vrai que c'est les parents, mais généralement, la maman, c'est elle qui détient la nourriture de l'enfant. Et donc, on a essayé d'effleurer, on n'a pas dit vraiment les avantages du lait maternel. Le lait maternel permet à l'enfant d'être en bonne santé. Et donc, le lait maternel permettra également à l'enfant d'être bien nourri, surtout dans les 1000 premiers jours de sa vie. Les 1000 premiers jours de sa vie, ça signifie que lorsque la femme tombe enceinte, jusqu'à ce que l'enfant va totaliser l'âge de 2 ans. Donc, c'est le premier départ. Et donc, c'est durant cette période que les neurones, que le cerveau, l'intelligence de l'enfant est en train de se constituer. Et donc, les mamans, les parents, tout le monde, c'est lui qui voudra que son enfant puisse être intelligent, que son enfant puisse bien évoluer. Et pour que nous puissions avoir quand même un Congo émergent, nous devons vraiment essayer d'assurer le premier départ de nos enfants dans les 1000 premiers jours pour éviter les malnutritions. Et donc, si cela n'est pas fait dans la période, c'est irréversible. Si l'enfant, son cerveau n'était pas bien constitué jusqu'à ce qu'il sera adulte, donc c'est trop tard.
Terminons par ces conseils. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevions Dr Annie Mitelezi-Kanene. Elle est chargée de la nutrition ici au niveau de l'UNICEF. Docteur, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
La page de Nouvelle en bref s'ouvre par la visite jeudi dernier à Mbujima et au Kasai Oriental du commandant de la force de la MONUSCO. Le lieutenant général Ngwebi a procédé à l'installation officielle du contingent sud-africain dans le déploiement dans cette ville il y a un mois. Le force commander a par ailleurs assisté à une réunion de sécurité présidée par le gouverneur de province Alphonse Ngoï Kessangi et a expliqué les raisons de la présence militaire des Nations Unies au Kasai Oriental. Autre nouvelle, un 26 cas de violation grave des droits de l'enfant documenté par la section protection de l'enfant de la MONUSCO du 31 juillet au 4 août 2017. Violation perpétrée dans le contexte de conflits armés dans les régions du Kasaï et de l'Est de la République démocratique du Congo. Parmi les enfants victimes de ces violations, 12 garçons recrutés et utilisés dans les conflits se sont échappés des groupes Maïma et Mazembe, UPLC, NDC Renové, FDLR et Nyatura notamment. D'autres enfants ont perdu la vie pendant la même période, renseigne encore la section de la protection de l'enfant qui insiste sur la lutte contre l'impunité et sur la nécessité de traduire en justice les auteurs des violations graves des droits de l'enfant. Enfin, à UNPOL, la police de la MONUSCO signale le début du procès au tribunal militaire de la garnison de Bukavu de l'agent de la police nationale congolaise, présumé avoir tiré sur les manifestants le 31 juillet dernier. C'était lors de la marche pacifique organisée conjointement par la société civile et le mouvement citoyen Lucha dans cette ville du Sud Kivu. UNPOL rappelle à cet effet qu'elle avait, avec la section des droits de l'homme de la MONUSCO, interpellé les autorités de la PNC de la place pour l'usage des armes à feu face aux manifestants. Cette action a donc permis de savoir que l'accusé avait agi délibérément sans aucune instruction de sa hiérarchie.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Comme annoncé dans le sommaire, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme entend mener sa propre enquête sur les violences qui ont émaillé lundi dernier Kinshasa et d'autres villes du pays. Monsieur Abdelaziz Tioy, directeur adjoint du BCNUDH, donne la perception du Bureau sur ces événements, ainsi que sur la présentation annoncée des personnes arrêtées présumées auteurs de ces violences. Il répond aux questions de Jean-Pierre Lali Koukou.
Lundi dernier, il y a eu des événements ici à Kinshasa et selon la police nationale, il y aurait 12 morts et... Quelle lecture avant tout faites les bureaux conjoints sur ces événements? Et puis, qu'est-ce que vous faites, parce que d'habitude, vous avez des enquêtes à mener pour donner un peu votre vision sur la situation?
Oui, nous sommes au courant des incidents de lundi, je dirais des incidents, parce que là, on est en train de vérifier. Vous comprenez que nous ne sommes pas en mesure actuellement de communiquer de façon assez claire comme on fait d'habitude, parce qu'évidemment, il s'agit d'une situation quelque peu inédite. Il ne s'agissait pas d'une manifestation pacifique, déclarée, comme celle qu'on a l'habitude de voir. Donc, concrètement, la première version milite en faveur d'une attaque contre les institutions de la République. Donc il nous faut vérifier les infos avant de pouvoir communiquer là-dessus. Alors, il faut qu'on comprenne que nous avons un mandat, et notre mandat est de veiller au respect des droits de l'homme, dans le cadre, évidemment, des obligations librement souscrites par la République démocratique du Congo. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Donc nous ne sommes pas dans une course aux chiffres avec les ONG, avec la police. Donc c'est de façon très claire. Nous ne pouvons pas communiquer sur des informations que nous n'avons pas nous-mêmes préalablement vérifiées en fonction de, basées sur la méthodologie que nous avons. Donc voilà.
Oui, récemment la police nationale a montré au moins une cinquantaine d'éléments qui seraient des Bundudia Mayala. Ces éléments, selon la police, seront montrés à la population et aux médias. Est-ce que de ce côté-là, le bureau conjoint a un rôle à jouer en ce qui concerne justement la prise en compte des droits de ces personnes qui ont été arrêtées et montrées comme telles?
Tout à fait. Il est clair, oui, que le droit de ces personnes-là qui ont été arrêtées dans le contexte des incidents de lundi, ces personnes, effectivement, ont des droits, quel que soit ce qu'on pourrait leur reprocher, évidemment. Il appartient à la justice de veiller au respect de leurs droits. L'exposition publique d'individus peut être une situation quelque peu dégradante, une atteinte à leur dignité. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ils sont sous une présomption de culpabilité, tu vois. Donc, seules des enquêtes pourront déterminer s'ils sont réellement les auteurs des incidents qui ont eu lieu lundi. Laissons la justice peut-être faire son cours, mais nous ne conseillerons pas à la police de procéder ainsi, parce qu'évidemment, c'est une atteinte aux droits individuels, de façon très claire. C'est une atteinte aux droits de l'homme que d'exposer un individu qui, jusqu'à preuve du contraire, sa culpabilité n'a pas été prouvée par un tribunal, d'être exposé en public et soumis à la vindicte populaire.
Oui, monsieur le directeur adjoint Radio Kapi, vous remercie.
Merci beaucoup.
Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme encore a organisé la semaine dernière un atelier de formation sur les droits de l'homme et les élections à Bafouassendé. Bafouassendé, c'est donc un territoire situé à plus ou moins 260 km de Kisangani. Une cinquantaine de responsables locaux, civils et des forces de sécurité ont pris part à ces assises. C'est un reportage signé Dorcas Kankou.
Nul ne peut faire l'objet d'arrestation ou de détention arbitraire. Tout individu arrêté...
La formation a eu lieu du 3 au 5 août dans la salle de réunion du territoire. Pour l'organisateur, le processus électoral en cours est une préoccupation majeure, tant pour les acteurs nationaux qu'internationaux, en raison de tensions sociopolitiques qui l'entourent et des enjeux pour la paix et la stabilité du pays. Sylvain Massoudi, officier de droits de l'homme au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, revient sur l'objectif poursuivi par cet atelier.
C'est dans un vaste programme que le Bureau des droits de l'homme développe avec ses différents partenaires dans le cadre du processus électoral. L'atelier de Bafassende avait pour objectif de donner toutes les informations nécessaires aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux autorités politico-administratives sécuritaires et quelques acteurs de la société civile, élargis à la représentation de l'autorité coutumière, les notions essentielles des questions de droits de l'homme et des élections. Deuxièmement, il fallait outiller la police sur le principe des droits humains en rapport avec l'utilisation de la force et le recours aux armes à feu pendant les opérations de rétablissement de l'ordre public. Et enfin, il leur donnait quel type de conduite à tenir en ce qui concerne la détention des personnes qui ont été interpellées lors de manifestations publiques.
Différents exposés ont été présentés aux participants, parmi lesquels celui ayant trait aux libertés publiques et pratiques des autorités publiques et sécuritaires, répression des infractions ou violations de droits de l'homme liées au processus électoral en RDC. Thème présenté par l'auditeur militaire de garnison Kisangani Chopo, Ruffin et Sungé.
Ce qu'on peut retenir de cet exposé est que nous avons d'abord tenu à rappeler aux militaires et policiers qui sont apolitiques. En ce qui concerne le processus électoral, les policiers et militaires sont appelés à accompagner, à sécuriser le processus électoral. Et à cela, ils doivent préserver surtout les droits et libertés des citoyens pendant ce processus.
Les participants à cet atelier n'ont pas caché leur satisfaction à l'issue de cette formation de renforcement de capacité. Témoignage.
Nous étions dans le noir. Nous nous comportions comme bon nous semblait, selon notre volonté. Pour le moment, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme nous a appris beaucoup pour que prochainement, nous ne retenions plus sur ces mauvaises pratiques, comme c'est dangereux, et à moindre erreur, on peut nous-mêmes tomber dans ce piège. Ce que j'ai appris pour améliorer mon travail, c'est par exemple comment arrêter en respectant les droits de l'homme, ne pas frapper la personne arrêtée, ni la traiter comme esclave ou même arrêter arbitrairement.
Rappelons que cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Monitoring et prévention de violations de droits politiques et libertés publiques en lien avec le processus électoral initié par le Bureau conjoint qui bénéficie d'un appui financier du Pays-Bas, de la Belgique et de la Suède.
Magazine des Nations Unies, questions aux Nations Unies.
Les opérations des FARDC à Niamelima, en Nord Kivu, et la sécurité des habitants, c'est en tout cas la question à laquelle répond le porte-parole militaire de la MONUSCO. Suivez.
C'est Roberto Mzima Milimani. Les habitants de Niamelima ne vont plus vaquer dans leur champ à Niamelima puisqu'il y a les FARDC qui est en opération avec les groupes d'armées qui sont là-bas. Est-ce qu'il y a un effectif des brigades de la MONUSCO pour sécuriser cette population qui va dans leur travail quotidien? Merci.
Pour apporter un premier élément de réponse à votre question, je dis que la sécurisation de la population dans tout le territoire du Congo est une mission primordiale de la force de la MONUSCO. À Niamelima, effectivement, dans l'RDC, effectivement, il y a des opérations qui se déroulent à Niamelima et même la CIOB Niamelima est engagée dans le soutien logistique et surtout médical, troupes des FARDC là-bas. Donc, pour nous, on a déjà lancé l'opération, c'est surtout contre les groupes Maïmaï Charles, c'est Virunga Park et surtout la partie nord de Niamelima. Pour les populations civiles, on apporte tout notre soutien. Et s'il y a des problèmes, vous n'avez qu'à nous apporter ça. Mais normalement, je n'ai rien reçu de la part de la CEB Niamelima concernant des problèmes de la population civile.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Julien Nyamouni Monachango. Je suis marié, père de 4 enfants. J'ai commencé mes études primaires d'abord à l'école primaire de Banga. C'est une école protestante. Cycle d'orientation également à la mission protestante de Banga. Puis je suis allé au collège Sainte-Thérèse, une école catholique, Sainte-Thérèse de Bradanta, où j'ai passé une partie des humanités avant de rejoindre le collège de Nyanga. J'ai obtenu mon diplôme d'état et ensuite je suis allé d'abord à l'ISP Kananga où j'ai fait des études de lettres, le français et linguistique africaine et j'ai obtenu le diplôme de gradué en pédagogie appliquée. Ensuite je me suis inscrit à l'Institut supérieur des techniques ou de l'information, ISTI, à l'époque, où j'ai obtenu également un diplôme de gradué en sciences et techniques de l'information. Ensuite, j'ai fait la licence en sciences de l'information et de la communication, et puis j'ai fait une spécialisation en politique internationale. En ce qui concerne le parcours professionnel, comme gradué en pédagogie appliquée, j'ai commencé par enseigner dans une école secondaire, à Ilebo, puis à Kinshasa. J'étais conseiller pédagogique, puis directeur des études avant d'être nommé préfet des études dans plusieurs écoles. Quand je suis entré après mes études à l'ISTI, j'ai immédiatement commencé dans la presse. D'abord au groupe de presse Le Potentiel, où j'étais reporter et puis responsable des services politiques avant d'être nommé effectivement rédacteur en chef adjoint en charge des questions politiques. Et puis je suis allé à Radio Élika, Radio Catholique, où j'étais rédacteur en chef. Encore une fois, je suis allé à TKM, Télékiné Malibu, où j'étais d'abord reporter, puis secrétaire de rédaction, avant d'assumer la responsabilité de directeur de l'information. Ensuite, j'étais cofondateur de Numérica, que vous connaissez parfaitement bien, avec Kaber Pindipassi, notre ami André Ogobani Massoudi, père en son âme, et enfin Kibambi Chintoua, notre aîné, avec qui nous avons travaillé dans ces projets que nous avons lancés. Et là, j'ai assumé le responsabilité de directeur de l'administration et donc des finances. En même temps, j'étais journaliste et donc j'écrivais. Voilà donc en ce qui concerne les fonctions, bien avant d'arriver à Radio Okapi, où j'ai été recruté à Kamanga, mais le contrat, je l'ai signé à Kinshasa. Puis j'ai assumé les charges de secrétaire de rédaction avant d'être nommé rédacteur en chef adjoint et coordonnateur de rédaction régionale. Donc je suis en charge de province ou de toutes les stations régionales de Radio Okapi. Chaque jour, 7h30, j'ai fait la conférence téléphonique avec toutes les rédactions provinciales. Je commence généralement par Lubumbashi, je vais à Kalemi, je passe à Bukavu, Uvira, puis Goma, et je passe à Beni, Bunia, Kisangani, Mbandaka, Matadi, je vais à Kikwit, et puis Kananga et Mbujimai, et enfin je termine avec Kindu. Ça c'est chaque matin et c'est le même exercice. Je préside la conférence de rédaction de Kinshasa et chaque matin à 8h30, avant de présider une autre réunion avec les différents services rédactionnels. Et une fois j'ai terminé, j'ai eu une réunion cette fois-ci plus restreinte avec la présentatrice du jour et le coordinateur ou la coordonnatrice des journaux du jour. Donc après avoir envoyé les journalistes en reportage, on fait le point à 14h. Prépare justement les éditions du journal des 15h et des 18h. Voilà donc les tâches que nous faisons chaque matin. Alors, temps libre, je dirais que je regarde beaucoup la télévision, j'écoute beaucoup la radio, je lis beaucoup les journaux, les livres. Je ne suis pas tellement partisan des films, mais je regarde généralement les documentaires, ça m'intéresse beaucoup. En ce qui concerne mes préférences, le mets, je mange un peu plus haricots, au riz, de la viande bien évidemment, et moins des foufou, je n'aime pas tellement, même si je suis né là où c'est le principal repas. Le sport, le foot, ça m'intéresse. Moi-même, je fais la marche à pied tous les dimanches. J'écoute la musique, notamment Tabouley, Koffi Olomide. Ce sont mes idoles, entre guillemets, si je peux dire ainsi. Et puis, il faut ajouter en ce qui concerne les perspectives pour terminer. Une entreprise de presse, bien évidemment, et faire des affaires, hein, parce que on a tout donné, mais il faut bien terminer sa carrière. On envisage une sortie honorable, avoir une entreprise de presse, et puis derrière, il y a d'autres affaires qu'on peut bien faire.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Vous pouvez noter dans votre agenda que le 19 août sera la journée mondiale de l'aide humanitaire. C'est la fin de ce magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama. La coordination, reportage et réalisation, Jean-Pierre Elali Coco. Au reportage également, Noémi Senga Kalala. À la mise en onde, Polydor Basunga, sous la supervision de Martin Sebujangwe. Merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt sur Radio Capi. Au revoir.